On accorde la basse.
Toute l'actualité musicale en public, tous les samedis à partir de 20h, au studio Charles Trenet,
avec Vali.
Et le dimanche à partir de 22h,
les jazzmen viennent jouer en direct
avec Elsa Boublil
dans Summertime.
La musique live sur France Inter, c'est aussi les concerts privés au studio 105 et les Trabendo Intercessions pour découvrir. Yeah. Sur scène, les artistes de demain.
Tu peux me baisser un poil la 4, s'il te plaît.
Tous les programmes sur franceinter.fr. France Inter, la voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, un répondeur. Bip, c'est parti.
Ouais, salut Daniel. Ah dis donc, j'ai de confier à ce couple. Hein. Surtout, tu le répètes à personne, hein, déconne pas, hein, fais pas le con. Hein. Pour 2017, Marine présidente. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, hein, t'inquiète pas. Mais, oui, je sais, vous commencez à avoir chaud un petit peu là-bas. Mais surtout, tu le répètes à personne, je ne vais pas le con, hein. D'accord ? Ok, c'est entre nous, hein. Allez, salut.
Oh, je voudrais juste répondre au premier monsieur qui est intervenu sur le répondeur aujourd'hui, qui est content de la montée de l'extrême droite. J'ai mal, en fait. J'ai mal de cette misère intellectuelle et de cette misère historique aussi. C'est dommage de ne pas se rappeler ce que ça peut faire, la montée de l'extrême droite. Voilà. Et je suis très triste pour ce monsieur, en fait. Je voudrais le lui dire, voilà, je le plains vraiment beaucoup.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous. Lionel Jospin, pour n'avoir jamais voulu remettre en cause sa politique centro-libérale, s'est fait virer Fissa au premier tour des présidentielles. La même surdité éclabousse aujourd'hui tout ce gouvernement qui fait pire que celui qu'il a voulu remplacer. La trahison historique de cette association de malfaiteurs qui nous inflige une double peine, celle du reniement à ses promesses et celle de l'ignorance de ses électeurs de gauche, mélenchonistes entre autres, cette trahison historique est la seule cause des performances actuelles et probablement à venir du front de la haine. Ne cherchez pas d'autre responsable que ce gouvernement de fantoches qui plie devant tous les lobbies économiques. C'était Michel de Lyon.
Allô, bonjour. En tant qu'électrice traditionnellement de gauche, mais qui en réflexion pour savoir pour qui voter aux prochaines élections, droite ou gauche ou Front National, je suis contente que vous ayez démonté avec votre reportage sur Sumen, ce qu'on appelle l'extrême droite et en particulier les identitaires. Maintenant, puisque vous êtes des gens objectifs, n'est-ce pas, de vrais journalistes, vous allez nous faire, j'imagine, une série de reportages pour démonter l'extrême gauche. Et en particulier, j'aimerais en savoir beaucoup, moi, beaucoup plus sur les antifas. Et si vous pouviez faire un reportage détaillé sur l'affaire Clément Méric, qu'on puisse avoir les dessous de l'affaire Clément Méric, et qui a agressé qui a tué qui dans cette affaire. Comme ça, on saura que vous êtes des gens honnêtes, objectifs et intègres. Merci.
Oui, bonjour Daniel. Je voudrais pousser un coup de gueule encore, et vraiment, et m'élever contre les médias qui devraient réfléchir davantage. À Brignoles, sur ce 20 000 votants inscrits, 6 000 se sont déplacés. Alors, il y en a combien pour le Front National qui ont voté ? 3 000. Il faut qu'ils arrêtent les médias. Ils jouent avec la peur. Il faudrait interroger plutôt les personnes qui ne se sont pas déplacées pour voter. Vraiment, c'est inadmissible. Le maire de Brignoles, il ne comprend rien du tout. Toutes ces radios qui se déplacent. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et vous, les votants du FN, hein, vous avez déjà vu Marine Le Pen venir vous soutenir dans vos difficultés ? Non, jamais. Elle distille uniquement la haine, la faute à l'immigré. Mais qui sont les immigrés ? Vous, les votants du FN, vous êtes sûrs de ne pas être immigrés ? Réfléchissez, hein. Madame Le Pen, c'est la haineuse. Haineuse, haineuse, haineuse. Et elle soutiendra toujours la finance. Réfléchissez. Il y en a marre, hein, de mettre le Front National comme ça. On n'a pas peur du Front National. On ne va pas voter pour lui. Voilà. Merci, Daniel.
Le message est le suivant. Le 17 octobre 1961, ils étaient des centaines de femmes et d'hommes d'Algérie venus sur Paris manifester contre la loi du couvre-feu. Et demain, nous célébrerons le triste anniversaire au pont Saint-Michel à Paris. 17 octobre 1961, 17 octobre 2013. Voilà. Au revoir.
Merci pour tous ces messages. Eh bien non, le 17 octobre, je suis bien malheureux, mais je ne serai pas à Paris, je ne serai pas
comme chaque année, sur le pont Saint-Michel pour commémorer le 17 octobre 1961. Mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde et je salue tous ceux qui viendront ce 17, donc dans l'après-midi. Moi, je suis à Varsovie. On est à Varsovie avec Antoine. On est en route vers les fins fonds de la Pologne pour comprendre comment arrive le gaz de schiste. L'exploitation commence en Pologne et si la France, elle, refuse pour l'instant, la Pologne ouvre ses bras et ses terres et son territoire à cette exploitation. Mais au passage, bien sûr, on est pris, si on reste quelques heures à Varsovie, par l'histoire. Tout de suite, on est pris. Cette ville a des griffes, comme disait Kafka à propos de Vienne. Aussitôt, Varsovie vous prend dans la mémoire, dans l'histoire, dans les pages très, très noires de notre histoire européenne. Là, on s'intéresse à l'insurrection de 1944. Et puis, au passage, il y a des histoires assez incroyable de pédophilie dans l'église polonaise, vous le savez peut-être, je ne sais pas si les nouvelles parviennent dans les médias français, mais c'est assez gratiné. Par ailleurs, le Guardian, le journal britannique Le Guardian, en septembre 2013, a fait un reportage, dont vous avez quand même entendu parler, j'espère, sur les conditions de travail sur le chantier du Mondial 2022 à Doha, au Qatar. On a compté 44 ouvriers morts en 2013 sur ces chantiers des Népalais pour l'essentiel. Et le Qatar s'apprête à recruter 1 500 000 travailleurs étrangers de plus pour la construction des installations pour ce mondial 2022. Donc il y a scandale, il y a des syndicats qui se bouge, la FIFA se dit préoccupée, j'adore cette expression, préoccupée. Bref, on peut espérer que quelque chose se mette en route pour défendre les conditions de travail de ces ouvriers venus de l'Inde, du Népal, du Tibet, etc. Mais ça n'a rien de nouveau. Ça n'a rien de nouveau dans les Émirats. Ces conditions inacceptables sont courantes. Et ainsi, à Dubaï. Nous allons retourner aujourd'hui à Dubaï. Nous y étions en mai 2006 et on notait déjà qu'en 2004, 880 travailleurs sur les chantiers de Dubaï étaient morts dans des accidents dus à la chaleur, etc. Et à l'époque, il y avait, sur 1 700 000 habitants de Dubaï, il y avait 90% d'étrangers qui faisaient tout le boulot, essentiellement venant du Kerala. Sur les conditions donc de travail dans ces régions du monde qui sont une vitrine et qui sont l'accomplissement de l'utopie idéolibérale, eh bien c'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour à tous. Un petit mot pour au sujet du retour de Leonarda, arrêté et expulsé pendant une sortie scolaire. J'informe les auditeurs qu'il y a en ce moment une pétition qu'on peut aller signer sur avas.org. Voilà, merci à tous.
Salut Daniel. Eh oui, la famille Labassigi Suisse a grandi. J'ai le plaisir d'annoncer la naissance d'un nouveau café repère à tous les habitants du pays d'Aubagne et de l'Étoile et à tous les auditeurs modestes et géniaux. Le café repère d'Aubagne tiendra ses réactions tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Pour sa première réunion, jeudi 17 octobre, le café repère d'Aubagne recevra Fabrice Aubert, ingénieur économiste, au restaurant Le Borsalino, 3 rue Jean Jaurès, à Aubagne. Merci Daniel pour tes émissions.
Dubaï Waterfront, next generation destination.
Les projets sont de plus en plus fous d'ailleurs, hein?
C'est délirant.
C'est vraiment le mot, c'est vraiment délirant. C'est amusant, c'est délirant, ça fait parler, ça fait venir du monde. Et ça marche.
Il y a un charisme, il y a une aura sur ce pays qui est extraordinaire. Vous devez le sentir d'ailleurs, vous devez le vivre. Moi, je trouve que c'est extraordinaire.
C'est incroyable cette marina.
Extraordinaire.
Et vous, c'est la première fois que vous êtes à Dubaï, alors votre impression à vous alors?
Époustouflé.
Alors voilà, là on voit une chambre avec un gars qui est en train de dormir sur le carrelage sans plumard. Alors vous êtes combien actuellement dans cette maison?
40.
40 dans 6 pièces.
Ah, 40.
Oui.
Alors vous avez toujours ceux qui ne sont pas contents, il y a toujours ceux qui sont mieux chez eux, il y a toujours ceux et ceux-là, mais ça, ceux-là ne sont bien nulle part de toute façon.
Alors quand est-ce qu'on vous a coupé l'eau?
Le 1er mai.
Dans les périodes d'été, comme ça, où il fait quand même très chaud, on utilise par jour à peu près 4,5 millions de litres par jour d'eau. Donc c'est de l'eau.
4,5 millions de litres d'eau par jour.
Par golf.
How we can go?
Sans se laver, sans dormir. Comment est-ce qu'on peut aller travailler? Comment est-ce qu'on peut être performant?
We can go to bathroom.
On ne peut même pas aller aux toilettes.
Ils sont heureux, vraiment, ils sont bien, hein, ils sont contents. Hein. Il y aura toujours des exceptions. Il y aura toujours des gens qui sont moins bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez toutes les nationalités du monde qui vivent ici. Et les gens vivent en harmonie.
Et à cette branche-là, cet homme s'est pendu. Un homme comme eux, là, un ouvrier comme eux, s'est pendu. Il ne devait pas être bien gros parce que la branche n'est pas épaisse.
Bienvenue à Dubaï, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, Dubaï, Eldorado Libéral.
Flight number 2, arriving from...
Falcon City of Wonders. Falcon City ships like a falcon.
Voilà, la cité des merveilles, Falcon City, la cité faucon des merveilles.
Alors ça, c'est merveilleux. On voit une tour Eiffel là-bas, nous c'est ce qui nous intrigue le plus, mais il n'y a pas que la tour Eiffel. Il y a aussi un volcan, il y a aussi une grande roue, il y a aussi des pyramides. Là-bas, j'aperçois le Taj Mahal, mais tout petit.
La tour de Pise.
Ça, c'est quoi?
The Lighthouse of Alexandria.
Ah, le phare d'Alexandrie, l'Arc de Triomphe, le Colisée.
And city shapes like a falcon.
Et là, vous voyez, là, la forme de cette ville ressemble à un faucon. Là, on voit le bec, l'œil, là, qui a une espèce de dôme, et les ailes. Et au niveau du croupion, c'est la tour Eiffel, en fait.
Falcon Head will be the shopping mall.
Là, la tête du faucon, ça sera le shopping mall, le centre commercial.
Two wings and the heart of the falcon comprises residential villas.
Les deux ailes et le buste, ce sera des villas résidentielles.
Behind Eiffel Tower, you can see a New York park, where the high-rise building G+60 will be constructed.
Et juste derrière la tour Eiffel qu'on voit là-bas, bah là, c'est une ville de type New York, avec des grands bâtiments très élevés, des gratte-ciels.
Falcon City enjoys every features of the life. Where you have a residential property, commercial property, social property, leisure property.
Falcon Land combine tout ce dont on a besoin dans la vie. Il y a la partie résidentielle, il y a la partie commerciale, la partie loisir, tout y est.
And it's also segregated by the Great Wall of China. It will be the walking track wherever the tourists, the visitors will come across from different world. And they will visit Falcon City of Wonders to see the beauty of Falcon City beyond history.
Il y a une promenade et c'est bordé par la muraille de Chine et les visiteurs qui viennent de partout dans le monde et ils peuvent voir les sites aussi de partout dans le monde.
The Falcon City au-delà de l'histoire, beyond history.
Issu d'une tradition séculaire, d'un peuple de marins et des eaux chaudes du Golfe arabique. Burj Al Arab est un hommage admirable à une nation visionnaire à l'aube d'un nouveau millénaire. Rappelant la voile d'un boutre arabe, l'hôtel est le symbole du triomphe de l'humanité.
Là, évidemment, on a envie de rester là parce que c'est une fontaine très belle. C'est un ensemble de petits jets d'eau qui montent et qui descendent, des éclairages au pied de chaque jet d'eau, c'est très beau. Mais on est bien là parce qu'il y a un peu de fraîcheur. Là, il est 7h du soir et il fait très, 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 très chaud pour nous. Ce matin, quand on est arrivé à 6h du matin, il faisait 35 degrés. Il fera 45, 50, plus de 50 degrés. Il était prévu pour les travailleurs qui représentent, travailleurs étrangers, qui représentent 85% de la population de Dubaï, il est prévu qu'à partir de 50 degrés, on ne travaille plus en extérieur. Ici, le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui sont d'un côté ou de l'autre de la vitre. Il y a un côté de la vitre avec l'air conditionné et de l'autre, non. Du bon côté, du côté frais, c'est 25% de la population qui est au frais. Le reste est à l'extérieur, c'est ceux qui sont sous le cagnard et qui font tout le boulot. Qui font tout le boulot, qui font tout ce paysage, qui construisent à toute pompe des choses invraisemblables, pharaoniques. Voilà, et là c'est l'heure un peu fraîche, la nuit tombe, la lune n'est pas dans le bon sens. Hein. Il faudra leur dire que la lune est de travers, elle est horizontale. Je ne sais pas s'ils ont remarqué, c'est pas normal du tout. Et c'est l'heure où les travailleurs, les immigrés qui viennent travailler ici se parlent un petit peu. Voilà, Dubaï, 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 goodbye. Ah, goodbye Dubaï, ce sera la fin. À la fin, on dira ça, goodbye Dubaï.
Welcome to the city of Arabia, a grand, glorious, and groundbreaking 20 million square foot development lying at the heart of Dubai land and serving as a majestic gateway to the new world. Set in the heart of a desert dreamland, with business and administrative offices,
schools and clinics. Rassurez-vous, contrairement à ce que l'on vous répète depuis des années dans là-bas, si j'y suis, le monde n'est pas seulement peuplé de pauvres gens. Rassurez-vous, contrairement à ce que l'on vous raconte depuis des années, dans là-bas, si j'y suis, le néolibéralisme ne fait pas que des malheureux. La preuve, Dubaï. Envie de rêve, envie de luxe, alors direction Dubaï. Dubaï, le paradis du shopping, la planète de la démesure. Ici, on n'imagine pas le futur, on le construit. Amis auditeurs, amis auditrices, là-bas, si j'y suis, vous emmène dans cette ville extraordinaire, cette ville monde, cette ville de la démesure qu'est Dubaï. Destination de rêve pour les adeptes du shopping, soleil, plage, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous rêvez est ici, à Dubaï, dans la base où j'y suis, sur France Inter.
Oh, Là, on est au Creek Golf Club. On est au Dubai Creek Golf Club. C'est un parcours de 18 trous qui est juste en plein centre-ville de Dubaï, qui a été ouvert il y a 14 ans et qui est spectaculaire parce qu'il y a une marina, il y a un parc à yachts, il y a des restaurants extraordinaires et puis il y a surtout un 18 trous et un 9 trous allumé le soir jusqu'à 10 heures. Donc c'est la
première question qu'on a envie de vous poser, là, je ne sais pas quelle température il fait 35 là aujourd'hui.
Ouais, 35, 34 degrés je crois cet après-midi.
Un petit 35 degrés. Effectivement, il va faire de plus en plus chaud et de plus en plus humide avec l'été. Là, l'été, vous vous cachez, là. Vous vous êtes tous terrés.
Ah non, je joue au golf même l'été. Non, on joue quand même au golf le matin, on joue le soir. On a un golf éclairé jusqu'à... le dernier tee time, c'était à 10h du soir.
Le dernier ?
Le dernier tee time, le dernier... comment on dit en français ? Tee time...
Le dernier jeu, quoi.
Voilà, le dernier jeu, c'est à 10h du soir, donc vous pouvez jouer jusqu'à 2h du matin si vous voulez. Donc on joue quand même au golf, je veux dire.
Regarde, là, tu peux admirer le swing de ce monsieur-là qui va démarrer.
Voilà, donc on a des bons joueurs aujourd'hui. Là, on a des bons joueurs. Là, on est au 9e trou, on a des très très bons joueurs.
Hop. Après, vous voyez que c'est un bon joueur à sa position.
Là, il n'a pas trop bien joué, mais normalement, c'est bon. Donc là, ils sont en train de jouer pour la Coupe de l'île Maurice. On a sur Dubaï, on vend 8 golfs. Il y en a 2 à Abu Dhabi, il y en a 1 à Ras Al Khaimah. Donc les golfs ont été développés pour promouvoir le tourisme quand même. Au départ, quand l'Emirates Golf Club a été construit, il y a une vingtaine d'années, c'était un petit peu pour faire plaisir aux expatriés anglais. Il était très loin, il était à 10 km de Dubaï. On avait vraiment l'impression que c'était très loin. Maintenant, vous avez vu, avec l'agrandissement de Dubaï, il est vraiment au milieu de Dubaï, donc en plein centre-ville. Il a son port kayak, il a un très bel hôtel sur place. C'est vraiment il a une académie de golf avec une marina, donc c'est quand même un produit extraordinaire aujourd'hui.
Et alors, évidemment, le décor, c'est des tours en construction et des grues.
Il y en a plus sur le côté de la marina, de l'autre côté quand même, vers l'Emirates Golf Club, vers les hôtels de plage. Là, c'est vraiment une ville qui se monte, là.
Au fond, c'est le premier parc d'attractions du monde, quoi, Dubaï.
Bah oui, c'est amusant, quoi. Ce qu'ils font, c'est amusant, quoi.
L'idée, c'est
des grands enfants.
Ouais.
Mais
ouais.
C'est bien pensé, c'est fait avec un plan en tête, c'est fait pour développer le tourisme, pour créer des emplois, pour donner en même temps une facilité de vie aux gens, aux expatriés. Enfin, je veux dire, ils nous gâtent, on est gâtés ici, on est pris en charge, on est vraiment...
C'est peut-être pas le cas de tous les expatriés, si mieux vaut être quand même française et diriger un golf que d'être un Pakistanais qui travaille sur un chantier quand même.
Oh non, je pense que Pakistanais sur un chantier, ce sera le même à Paris, ce sera le même à Berlin, ce sera le même partout. Mm-hmm. Mais moi, vous savez, moi j'ai une petite bonne à la maison qui s'occupe de ma maison. Ça fait 10 ans qu'elle est avec moi, elle s'est construite quand même une maison... avec 4 chambres à Sri Lanka, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par rapport là où ils vivent et par rapport à ce qu'ils gagnent, ils sont sûrement plus riches que vous et moi. Donc, tout est relatif quelque part. Ils sont heureux, vraiment, ils sont bien, ils sont contents. Il y aura toujours des exceptions. Il y aura toujours des gens qui sont moins bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez toutes les nationalités du monde qui vivent ici. Et les gens vivent en harmonie, vraiment.
Mostly people got mental. Mostly people.
La plupart d'entre nous, on devient fou parce qu'on n'a pas, on ne sait pas, on ne connaît pas la solution.
Without wash, without eating, without anything, how to, without sleep.
Comme on ne peut pas se laver, on ne peut pas dormir, on ne peut même pas aller travailler.
Because how we can go
without sleep? Sans se laver, sans dormir, comment est-ce qu'on peut aller travailler? Comment est-ce qu'on peut être performant?
We can shower. We can go to the bathroom.
On ne peut même pas aller aux toilettes.
Est-ce que vous pouvez nous faire visiter un petit peu?
Non, 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 non.
Alors voilà, là on voit une chambre. On voit une chambre avec un gars qui est en train de dormir sur le carrelage, sans plumard. Alors vous êtes combien actuellement dans cette maison?
40 people.
Nous sommes
40.
40 dans 6 pièces.
Ah, 40 people.
Oui.
Je voudrais savoir si c'est une situation courante.
This, ok. Betis.
Oui, c'est une situation courante ici.
Voilà, contraste entre le golf, le Dubai Creek Golf Club, l'un des 8 golfs de Dubaï, et puis la condition des travailleurs. Madame Michel, qu'on vient d'entendre, cette
française fait partie des travailleurs immigrés, après tout. Alors, elle, c'est plutôt le dessus du panier. Mais le panier est très grand. Et dans ce panier, on trouve des ouvriers comme ceux-là, venus d'Inde, venus du Tamil Nadu, venus du Kerala, de ces états du sud de l'Inde. Et pour être très précis, leurs revenus s'échelonnent pour ceux qui sont dans cette maison, qui nous accueillent, entre 250 et 380 euros par mois. Ce sont relativement pas les plus mal payés, on en rencontrera d'autres. Et c'est le salaire approximatif. Je rappelle que 80 à 85% de la population des Émirats, mais notamment de Dubaï, est composée d'étrangers. Mais il ne faut pas confondre ces travailleurs étrangers avec des immigrés. Ils n'ont aucune chance de devenir un jour des citoyens émiratis. Ils resteront toujours des étrangers. Depuis longtemps, du sous-continent indien, et notamment de l'Inde, on vient travailler, on s'expatrie pour venir travailler dans les Émirats, dans le Golfe d'ailleurs en général, mais dans les Émirats. L'exploitation de ces hommes est d'une cruauté et d'une barbarie absolue. Dubaï n'a pas le monopole de cette façon de se comporter, mais avec un boom économique, avec une masse d'argent concentrée dans un endroit aussi réduit finalement, c'est évidemment particulièrement choquant. Si bien que depuis quelque temps, les ouvriers des BTP, des bâtiments et travaux publics, multiplient les protestations. Et ça commence évidemment à ennuyer un peu les autorités qui, encore une fois, tiennent beaucoup à leur image. Alors, pourquoi sommes-nous là avec ces ouvriers indiens ? Eh bien, c'est parce qu'on est dans le quartier Najma, qui est un quartier résidentiel de Dubaï, et ces ouvriers le louent tout simplement une maison qui appartient à un Émirati, mais qui fait louer sa maison par un intermédiaire qui est un compatriote de ces ouvriers. Et il y a des problèmes, ils augmentent le loyer, ils ne peuvent plus payer leur loyer. Alors on leur a coupé l'eau, alors on leur a coupé l'électricité. Et ils sont là à vivre dans le noir, très inquiets, complètement paniqués. Et on leur rend visite et ils nous font visiter leur maison.
We know the situation, that is why. Because you know, so many people are not giving the sponsor, means the owner. Not giving the accommodation and food. That is why they are going to
nous ne summer. Pas, summer. Nous ne sommes pas d'accord pour vivre comme ça, mais nous n'y pouvons rien.
Pas le choix.
On n'a pas le choix parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui sont des travailleurs clandestins. Donc, qui n'ont pas signé de contrat, etc. Qui n'ont pas de salaire fixe.
Mais là, on a vu une chose. Dis-moi, on a vu une chose épouvantable là, dans le journal aujourd'hui. On a vu l'histoire d'un travailleur qui s'est suicidé, qu'on a retrouvé pendu à un arbre.
Ça, nous ne savons pas, mais la même histoire s'est produite ici même.
Ici même, dans la maison?
Il y avait quelqu'un qui travaillait comme ça avec un salaire dérisoire. Comme il n'avait pas de salaire, il ne pouvait pas envoyer de l'argent pour sa famille. Le soir, il nous parlait normalement. Nous, on ne soupçonnait absolument rien. Et quand nous dormions tous, vers minuit, il s'est pendu à l'arbre, un citronnier, ici dans la cour.
Ici dans la cour, derrière nous.
Et c'est le matin, à 6 heures du matin, quand j'étais allée aux toilettes. J'ai vu des chaussures, mais il n'y avait personne dedans. Donc je suis allée voir et je l'ai vu mort, pendu. Jusqu'à maintenant, on n'a même pas touché à ces chaussures. Elles s'y trouvent.
On peut aller voir. On traverse la cour avec des sommiers, des planches, des ficelles et on arrive dans le fond de la cour. Il y a plein d'ordures, des palmes, des vieux coussins.
Avec une échelle, il avait posé une échelle et il est monté et il s'est suicidé ici.
Et effectivement, au pied de l'échelle, ils ont laissé des chaussures, des tongs. Des tongs que le sable recouvre, des tongs bleus.
Depuis 7 mois.
Depuis 7 mois. Quand tu l'as découvert, là, suspendu à cet arbre.
Nous, on ne sait pas. On a téléphoné à la police. La police est venue ici, voulait savoir s'il avait de la famille ici. Et comme il n'avait pas de famille, ils ont pris le corps. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé après.
Ah, vous ne savez pas ce que le corps est devenu. Mais vous saviez d'où il venait, de quelle région, de l'Inde?
Nous, on ne savait même pas où il travaillait. Il venait du Kerala. À l'époque, on avait une place à louer. Donc, il voulait tout simplement un espace pour dormir. Donc, nous ne savions pas. Il nous avait dit qu'il travaillait, mais on ne savait pas où.
Donc, vous ne savez pas si sa famille est au courant?
Non, nous, on ne sait pas. Après que la police l'a ramené, on ne sait pas du tout.
Et vous savez comment il s'appelait au moins?
Dasan. Il s'appelait Dasan.
In the world's fastest growing city, something is happening. Dubai Waterfront, next generation destination.
Et puis vous avez le yacht club? Vous n'avez pas vu notre yacht club?
Non.
Vous allez voir notre yacht club, il est beau notre yacht club. Il y en a beaucoup qui disent que c'est l'Opéra de Sydney. Bon, enfin, c'est parce que c'est blanc et que c'est élégant quand même comme clubhouse. Mais il est bien connu, il a été voté le plus beau clubhouse du monde il y a quelques années en Angleterre.
Ah bon?
Oui. Par Golf World. Et vous, c'est la première fois que vous êtes à Dubaï, alors votre impression à vous alors?
Époustouflée.
Parce que nous, quand on est là depuis 21 ans, on ne le voit plus, vous voyez ce que je veux dire? On vit d'un projet à un autre. Les projets sont de plus en plus fous d'ailleurs. Hein,
c'est délirant.
C'est délirant, c'est vraiment le mot, c'est vraiment délirant. C'est amusant, c'est délirant, c'est... ça fait parler, ça fait venir du monde. Et ça marche, ça marche. Nous, on le voit bien parce que
c'est
nous...
C'est incroyable cette marina là.
Vous voyez comme c'est beau ça, hein? Vous savez, nous on a acheté une maison l'année dernière, il y a 2 ans à Saint-Tropez. Et d'aller acheter une maison sur un golf, le nouveau golf de Gassin à Saint-Tropez, qui est quand même extraordinaire, qui est, la position est extraordinaire. On l'a acheté, on est venu ici, c'était le moment où on pouvait acheter ici en tant qu'expatrié. Donc on a vendu la maison tout de suite, qu'on venait d'acheter, et on a acheté 2 maisons ici. Et on n'achète pas le terrain, on achète la maison. Hein. Et dans mon cas où j'ai acheté une maison sur la mer, sur Piloti, on n'achète pas la mer non plus, on achète la maison. Voilà.
Vous avez acheté une maison sur Piloti?
Oui, sur le deuxième Palme. Ben, sympa, hein.
Et quand est-ce qu'elle sera livrée, votre maison?
On parle dans 4 ans.
Vous avez le temps de la vendre 5 fois d'ici là, non?
On a déjà fait...
C'est un placement?
Ah oui, complètement, ouais. Déjà, c'est un bon placement. Même là, si je décide... elle n'est pas construite, même là, si je décidais de la vendre, c'est un très, 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 très bon placement.
Vous avez fait combien de plus-value déjà?
Bon, on l'a acheté pour 2 millions de dirhams, et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait la vendre pour 7.
C'est extraordinaire.
C'est pour ça que les gars nous racontent qu'ils nous montrent des maquettes, et ils nous disent, on a déjà vendu la moitié. Ou le tiers, enfin. Ça veut dire que entre la maquette et le gars qui mettra vraiment les clés
y a
dans l'appartement.
Pour revendre, bien sûr, oui.
C'est ça, il y aura 4 ou 5 fois la culbute.
Oui. Hein? Ah ben, il y a des investisseurs, oui, bien sûr. Oui. On a eu une opportunité d'acheter sur plan au départ. Il fallait y croire, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens d'expatriés qui n'y croyaient pas en disant attendez, arrêtez là. Mais il fallait y croire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce que pour moi. C'est extraordinaire. Il y a un charisme, il y a une aura sur ce pays qui est extraordinaire. Vous devez le sentir d'ailleurs, vous devez le vivre. Il y a un tel optimisme ici, il y a un tel développement, il y a un tel respect pour le pays et puis pour les gens qui le gouvernent. Le pays vit en harmonie, vraiment. Hein. Il y a un énorme respect des dirigeants, des princes, de la famille royale ici. Énorme. Et qui nous le rend bien, hein, qui nous le rend bien. Je veux dire, on vit très, très, très bien. Je veux dire. Tant qu'on respecte la loi. Alors vous avez toujours ceux qui ne sont pas contents, il y a toujours ceux qui sont mieux chez eux, il y a toujours ceux-là, mais ça, ceux-là ne sont bien nulle part de toute façon. Par contre, si vous voyez d'autres Français, vous allez voir que les Français en général sont contents d'être là. Hein. Vraiment, vie en harmonie, je veux dire.
ceux qui ne sont pas contents, ben justement, qui sont bien nulle part, on va aller les voir à nouveau dans cette maison où ils sont sans eau et sans lumière. Leur propriétaire ayant coupé tout ça parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer, tout simplement, et qui sont quand même assez inquiets et qui ont laissé au pied de cet arbre les deux tongs bleus de leur copain qui s'est suicidé, chose qui arrive assez souvent, oui, semble-t-il. Des ouvriers comme ça, complètement désespérés, on peut dire s'en sortent de cette façon. Je donnais des montants de salaire pour ces travailleurs. J'ai donné un chiffre de 380 euros, parfois un peu plus. Il faut faire beaucoup d'heures pour ça. Il faut bien rappeler, évidemment, qu'il n'y a aucune couverture sociale, aucune couverture médicale, aucune couverture retraite et même accident. La menace permanente que les entreprises font planer sur les travailleurs étrangers, c'est bien sûr l'expulsion. À tout moment, les ouvriers peuvent être expulsés. Allez. Alors on va s'asseoir. Alors on est drôlement bien reçu. Là on est dans une sorte de foyer pour les travailleurs. On est toujours avec nos amis qui viennent de l'Inde. Là on est dans un logement pour les travailleurs. Là il y en a quatre dans cette pièce. Bon, est-ce que vous avez des assurances si vous êtes malade?
Si on est malade, on ne touche pas notre salaire. On n'est pas payé. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé.
Et est-ce que les soins sont payants, sont gratuits?
Non, ce n'est pas gratuit. C'est nous qui payons.
Tu payes l'hôpital si tu es malade. Vous n'avez aucune espèce de couverture maladie.
Rien. Si on ne travaille pas, on ne gagne rien. Si on est malade, on est là, seul, à souffrir, on ne reçoit rien.
Et s'il y a un accident, on nous a dit qu'il y avait pas mal d'accidents.
Non, même dans le cas des accidents, nous, on ne touche rien, on ne nous donne rien. Quand ils tombent, ils vont peut-être l'amener à l'hôpital, mais c'est tout. Après, c'est à nous de
payer. Et s'il y en a un qui se tue?
Dans ce cas-là, c'est fini. Ils vont donner un billet pour rapatrier le corps.
Ah, quand même.
Mais si la personne est morte, quand la personne est vivante, pas de billets d'avion.
Si tu n'es pas d'accord, s'il y a un désaccord avec la direction, qu'est-ce qui se passe?
S'il y a des gens qui s'opposent, souvent on les met à la porte, la compagnie les met à la porte. Parce qu'elle dit que nous avons beaucoup, beaucoup de demandeurs. Ah. Donc on peut facilement vous remplacer.
Donc tout le monde a peur de se faire virer, quoi.
L'autre. Tout le monde a peur.
Toi, tu es là depuis 18 ans. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de construire des syndicats?
Non.
C'est
parce que c'est interdit, les syndicats.
Non, c'est interdit, les syndicats.
If they are trying to make a union or something like this, they will sack them.
Ils seront mis à la porte si la compagnie apprend qu'ils sont en train d'essayer de constituer un syndicat.
Mais est-ce que vous avez essayé de faire des syndicats?
They don't have any unions. The labor camp people, they are very strong. Sometimes they used to go to the labor office and strike it.
Non, il n'y a pas de syndicat, mais les travailleurs sont très forts, très solidaires, et il leur est arrivé par moment de faire la grève.
Alors, c'est quoi les conditions de travail sur les chantiers?
During the summer time.
Il montre ses mains qui sont vachement rêches.
En été, il faut porter de l'acier dans les mains nues. Donc il faut monter
l'acier. Il montre ses mains, les durillons.
Il faut descendre. En été, ça devient très difficile.
Quand on dit en été, c'est plus de 50 degrés, hein, l'été ici.
Il y en a qui tombent dans les pommes, mais ils sont bien obligés de travailler, même quand il fait très chaud.
Morning, 7 o'clock.
On commence à 7h du matin.
5:30.
Et on finit à 5h30 du soir. 6 jours par semaine.
Le vendredi, c'est le jour de repos. Voilà. Donc, ça fait 51 heures de travail par semaine. Et quels sont vos salaires? Alors, toi, par exemple, qui pilote une grue...
970 dirhams.
970 dirhams, c'est-à-dire 240 euros pour 51 heures de travail par semaine.
Après 20 ans d'expérience.
Les intérieurs du Burj Al Arab sont plus opulents que tout ce que vous pouvez imaginer. L'alliance du luxe et du fantastique, où le moindre détail de ce vaste ensemble féerique cache une merveille à découvrir.
Combien de litres d'eau par jour pour arriver à ce que ce soit aussi verdoyant avec une chaleur pareille, et sachant qu'évidemment cette ville est entièrement construite sur du sable et donc le golfe aussi.
Dans les périodes d'été comme ça où il fait quand même très chaud, on utilise par jour à peu près 4,5 millions de litres par jour d'eau. Donc c'est de l'eau.
4,5 millions de litres d'eau par jour qui arrive
par golfe. Qui arrive de 40 km d'ici, donc sous un système de
pipeline.
De pipeline, oui, parce qu'il ne pleut pas. Hein. Donc il pleut très peu. Si on a 2 jours de pluie par an, on a eu un mauvais hiver. On va peut-être s'arrêter de parler parce qu'il y a un joueur là qui commence à tirer son coup. Et voilà, c'est parti. Pas mal.
Et puis après, il pose pour la photo.
Et puis après, on pose pour une photo, ouais, parce qu'on est en compétition, là.
Vous seriez resté chez vous, au Tamil Nadu, au Kerala. Quelle serait la différence? Vous auriez la même vie?
Parce que là, il en reste 40 euros.
On aurait été beaucoup plus heureux, parce qu'au moins, on aurait eu nos familles avec nous. On est ici et on souffre.
Et pourquoi vous ne repartez pas alors? Parce que vous avez des dettes à rembourser?
Parce que pour partir, il faut avoir assez d'argent pour acheter le billet d'avion. Donc tous les mois, même si on arrive à économiser 200 dirhams, il faudra attendre 10 mois. Et on n'arrive pas à les économiser parce qu'on n'a que 200 dirhams avec lesquels vivre. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu aller une seule fois au Tamil Nadu.
Au pays. Mais quels sont ceux qui voudraient rentrer au pays et ne plus revenir?
Au moins, nous quatre, nous, on aimerait bien rentrer pour de bon en Inde.
Et quels sont ceux qui voudraient rester?
You know, the situation indienne. We are coming from the normal family, not a high family. So,
en Inde, nous venons des familles ordinaires, pas des familles riches.
Why we came here?
Pourquoi on est venu ici?
To get the prosperous future.
Pour avoir un avenir prospère.
That's why we came here.
C'est pourquoi on est venu ici.
But the situation coming such like this one.
Mais la situation est devenue comme ça.
Combien tu envoies par mois, toi, au pays?
Moi, je ne gagne pas suffisamment pour envoyer. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu parce que je rembourse le visa.
Combien tu avais payé pour le visa?
₹80,000 indiennes à l'agent. C'est à peu près un peu moins de 2 000 euros.
Alors, pour trouver ces sommes, comment t'as fait? Tu t'es endetté, t'as vendu ta maison?
Moi, j'ai passé 5 ans pour avoir cet argent.
T'as économisé pendant 5 ans? Tu trouves que c'était idiot maintenant? Tu trouves que tu t'es fait avoir ou pas?
D'accord. Moi, j'ai l'impression que j'ai perdu ma vie. Que ma vie, c'est une perte.
T'as l'impression que ta vie est foutue?
Oui.
Toi, ça fait 9 ans que tu es ici.
Une fois, je suis allée en Inde.
En 9 ans?
Seulement une fois.
Est-ce que tu arrives à envoyer de l'argent chaque mois?
Non, je n'arrive pas. Tous les 3 mois, j'arrive à économiser un tout petit peu pour l'envoyer en Inde.
Mais est-ce que les gens du Tamil Nadu ou du Kerala continuent de venir ici?
Oui, ils continuent à venir. Parce qu'ils ne connaissent pas la vraie situation, ils ne connaissent pas la réalité.
They're only seeing, you know, TV.
You that, you know,
firework, you know. They're thinking, oh, this is Dubai. Wow, I want to come to Dubai.
Wow, c'est Dubai. Moi, je voudrais bien me rendre là-bas.
Ils pensent que vous allez faire du ski, là, sous le ski dôme, que vous allez en haut de la tour, la plus haute tour là, du monde, l'hôtel 7 étoiles.
The highest tower, le pont.
Correct. They are making, you know, the construction of the Burj. Everybody is thinking, oh, this is Dubai, it's the
Tout
biggest.
Pense, wow, yeah. Dubai, c'est le plus grand.
They're thinking, what are they thinking? Just come to Dubai and work, earn more money, and they can save some money, and their life is very much more...
Ils pensent qu'ils vont venir ici, ils vont gagner beaucoup d'argent, et leur vie sera bien.
Correct.
Belle.
Est-ce que vous sortez un petit peu dans la ville? Est-ce que ça vous arrive de rentrer dans ces grands hôtels?
Oh, how we can go? Madame, tell me.
Comment est-ce que nous pouvons y aller?
Est-ce que vous la trouvez belle d'abord, cette ville?
Ah, this is a very beautiful place, dreamland, we know.
C'est un pays de rêve.
But most of I'm saying that 80% of people are suffering.
Mais 80% des gens souffrent.
Et ces 80% sont des étrangers.
Foreigners, you know?
Oui.
Correct, we agree, correct.
Oui, nous sommes d'accord.
How it has happened, you know? The living conditions just like a jail.
Ils vivent, leurs conditions de logement sont lamentables. Ils vivent comme s'ils vivaient dans une prison.
Because so many people are coming. Again coming, Dubai is the dreamland.
Il y a tellement de personnes qui continuent à venir parce que Dubaï, c'est le pays des rêves, c'est la terre des rêves.
Et tout ça, ça se passe, c'est lors de l'appel à la prière, là. On est vendredi, et vendredi c'est comme dimanche, et tout ça, ça se passe derrière nous avec la présence très très bouleversante d'une paire de tongs qui se recouvertent peu à peu par le sable. Au pied d'un arbre, un arbre pas très gros, hein. C'est un citronnier, et à cette branche-là, cet homme s'est pendu.
C'était 2022, Mourir pour le Mondial, une nouvelle diffusion d'un reportage de Guy Wanctil et Daniel Mermet de mai 2006. Pour en savoir plus, vous pouvez lire Monarchie et Société d'Arabie, Le temps des confrontations, un livre de Fatia Tazieni, édité par les presses de Sciences Po. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Émission, là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Julien Dumont, une émission réalisée par Jérôme Chélius et Franck Aderer, préparée avec Jonathan Duong. Et c'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
les 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Pardon, monsieur, j'ai juste une question, je voudrais savoir combien il y a de personnes, là?
Bah, sur l'ensemble de la journée, on a... Bon, aux alentours de 250 personnes, à peu près.
150
250, à peu près, voilà.
Donc, c'est l'estimation de la police?
Ouais, si vous voulez.
Non, mais merci, parce que...
Ouais, moi, je... parce que tout à l'heure, il y a des sans-papiers qui sont venus avec eux, il y a eu des allers-retours, ouais. C'est ce qui était prévu, entre 200 et 400 personnes, on va dire. 250 personnes, c'est déjà un bon chiffre.
Bonjour à tous et bienvenue Place de la Bastille, où la troisième Roma Pride se déroule en soutien au Rhum. Et voilà, l'estimation de la police, 250 personnes sont réunies là, autour de quelques Roms et beaucoup de musiciens. Ça se passe bien?
Très bien.
Qu'est-ce qui a marqué sur votre pancarte?
Tous les chemins fraternels mènent au Rhum. R-O-M-S. Hein?
Bien joué.
Ben oui. Et puis, l'autre côté, soutien au Rhum 2013.
Et pourquoi vous êtes là?
Ben moi, je viens de Bourgogne exprès pour les soutenir, ce que je disais à Yvan Le Bolloc, et je remercie pour son action. Je suis là parce que c'est important de dénoncer, à l'heure actuelle, la politique du gouvernement, mais qui fait un écran de fumée par rapport à son absence de politique sociale, égalitaire, fraternelle. Donc il fait cette grande fumée, c'est de dénoncer, de montrer des boucs émissaires comme les Roms, les sans-papiers, tout ça. Et donc c'est gravissime, quoi. J'en suis ému d'ailleurs, parce que je trouve que moi j'ai voté Hollande, mais enfin surtout contre Sarkozy j'ai voté, et on est déçus, quoi. Parce qu'on aurait voulu plus de social, plus d'égalité, plus de... qui pense aux pauvres, qui pense à la santé, aux services publics. Et il n'y a pas tout ça. Et en même temps, pour cacher ça, cette absence de politique sociale, égalitaire, et il tape sur les Roms, il cherche des têtes de Turcs, c'est honteux, quoi. Tout est là, c'est lamentable.
Et vous faites quoi en Bourgogne?
Ben en fait, j'y habite, mais je travaille sur Paris, je suis enseignant.
Et vous enseignez quoi?
Prof des écoles.
À quel niveau?
À tous les niveaux, je suis titulaire remplaçant. Et je suis écrivain aussi, en poésie et militant.
Parce que je vois que vous avez un masque blanc,
oui.
Le masque des Anonymous.
Oui, je le mets partout dans les manifestations maintenant, parce que c'est le symbole mondial de la révolte des peuples. On le voit sur toute la planète, tous les pays, en Turquie, au Brésil, à Moscou, en Syrie, enfin partout, quoi. Parce que depuis plus de 2 ans, les peuples se lèvent. Et ça, c'est important. Il lance un message vraiment important pour le social, pour l'environnement. On voit bien au Brésil aussi, ils ont dénoncé le coût énorme de la Coupe du Monde de foot. Parce que l'argent n'est pas où il faut. Et comme dit le slogan des indignés, 1% de la planète contrôle les richesses et dirige le monde, et contre 99% qui en bavent, quoi.
Et là, vous avez posé vos pancartes et vous partez?
Oui, je repars, là. En fin de manif, je les laisse. Je suis allé manifester à Madrid, à Athènes, à Londres, à Bruxelles.
Et alors après, qui c'est qui va les récupérer, vos pancartes?
Ben, je les laisse au Cirque Romanès, ils m'ont dit qu'ils allaient les prendre.
Ah bon?
C'est un cadeau.
Ah, d'accord.
J'ai vu le responsable. Ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est important, je trouve, se battre à l'heure actuelle pour les trois causes qui sont liées, c'est la justice sociale, l'environnement et les droits de l'homme et des animaux aussi, parce que je suis végétarien.
Ah oui, aussi.
Notamment en tant qu'enseignant, je dis aux enfants d'avoir du respect pour tous, pour la vie en elle-même, pour tout le monde, pour les animaux, pour les humains, les arbres, la nature. On voit bien ce qui se passe au niveau de l'environnement. Hier, j'étais à la manifestation de Greenpeace pour libérer les 30 militants.
Votre prénom?
Jean-Baptiste. Ah, c'est chouette, hein?
Mais il n'y a pas beaucoup de monde, hein.
Ouais, bah, le problème, on en parlait, on disait que les jeunes ne sont pas là parce qu'ils sont derrière leur jeu vidéo violent. Il faudrait abonner la télé. Comme dans les manifs, souvent les gens ils disent ça. Éteignez vos télés, allumez vos cerveaux. Ou le cœur aussi. C'est vrai. Donc ça, c'est important.
Et alors, vous, pardon, en tant que président de...
Non,
en tant que directeur, excusez-moi. En tant que directeur de l'EGAM, vous n'êtes pas déçu par le peu de gens qui sont là?
Bah écoutez, après, c'est la responsabilité de chacun de se saisir,
s'informer,
de se responsabiliser, de s'engager. Il y a plein de formes d'engagement aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux comme dans la rue aujourd'hui. Après, chacun doit se saisir de cela. Bien sûr, on aimerait qu'il y ait 3 300 000 personnes, bien sûr. Après, on a mobilisé, on a beaucoup travaillé. Je dirais que ça n'a pas été facile cette année. Beaucoup plus difficile que les autres années.
Pourquoi?
Bah parce que le ministre de l'Intérieur, en tenant des propos pareils la semaine dernière, a créé une confusion idéologique au sein de la gauche qui force un peu chaque responsable socialiste à se positionner par rapport à ses propos, à suivre ou ne pas suivre, ou à dire ou à ne pas dire. Et du coup, pour ne pas se positionner, ils ne font pas grand-chose. Donc on a eu par exemple beaucoup de soucis avec la mairie de Paris pour obtenir cet endroit, alors que ce sont des partenaires sur cet événement depuis 3 ans, parce que les propos de Manuel Valls les ont déconcertés. Donc,
parce que la première Roma Pride au Panthéon, c'est vous qui l'aviez organisée?
Également, c'était nous, oui.
Il y avait plus de monde là, hein?
Il y avait plus de monde, je ne sais pas, la première, il y a 2 ans, on était 300, je crois. L'année dernière, 500. Là, j'espère qu'on est 500 aussi, peut-être.
Vous êtes optimiste?
Toujours.
Et si on veut en savoir plus, c'est pas compliqué, il y a le site egam.eu.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
France Inter et le Théâtre National de Chaillot présentent du 17 octobre au 9 novembre La double mort de l'horloger, la dernière création d'André Engel. André Engel poursuit avec ce spectacle un compagnonnage fidèle avec l'œuvre d'Odon von Horvath. Il réunit ici deux textes à la troublante gémellité, chacun relatant la mort violente d'un horloger. Un diptyque crépusculaire digne de certains romans noirs. Retrouvez la double mort de l'horloger dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon, excellent après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Et le point sur l'actualité est avec Laetitia Gaillet.
La bourse de New York a ouvert en hausse aujourd'hui et ce malgré le blocage sur le budget américain. Républicains et démocrates ont désormais moins de 24 heures pour trouver un accord pour relever le plafond de la dette. Il s'agit d'éviter maintenant un défaut de paiement des États-Unis. Il est difficile de mettre en cause le préfet du Doubs dans l'affaire Leonarda. Selon Éric Alauzet, député vert de la circonscription où vivait la famille de la jeune Rome Kosovar, il n'a pas été informé de la situation de l'adolescente lorsqu'elle a été remise à la police lors d'une sortie scolaire la semaine dernière. C'est un dérapage. Les policiers auraient dû, dit-il, en référer à leur hiérarchie. En tout cas, l'interpellation de l'adolescente et l'expulsion de sa famille qui a suivi a suscité de nombreuses critiques au sein même du gouvernement depuis hier soir. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, est mis en cause. Certains l'appellent même à la démission. Avant de s'envoler pour les Antilles où il est attendu ce soir, le ministre de l'Intérieur a ouvert une enquête administrative. Il appelle aujourd'hui à garder son sang-froid. De son côté, Jean-Marc Ayrault, lui aussi, s'est exprimé à l'Assemblée nationale sur le sujet. Il faut attendre les conclusions de l'enquête d'ici 48 heures. On l'écoute.
La base de l'État républicain, c'est le droit. Mais la base de l'État républicain, c'est aussi l'humanité et la fraternité. Et je voudrais rappeler que s'agissant des recours une fois qu'ils ont été expulsés en application de notre droit et des droits d'asile, si des arrêtés de conduite à la frontière ne permettent pas, n'autorisent pas que des enfants scolarisés puissent être interpellés au sein de l'enceinte scolaire, et l'enceinte scolaire, ce sont aussi les activités qui sont associées à l'école, et notamment les déplacements dans le cadre des activités scolaires, et c'était le cas dans cette situation. Et s'il y a eu faute, l'arrêté de reconduite à la frontière sera annulé. Cette famille reviendra pour que sa situation soit examinée, réexaminée en fonction de notre droit, de nos principes et de nos valeurs.
Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée nationale cet après-midi. Interrogé sur France Inter à 13h, Leonarda a dit qu'elle souhaitait revenir en France pour reprendre les cours. Le truc le plus important, dit-elle, c'est l'école. Selon l'agence France Presse, qui a réussi aussi à la joindre avec ses parents, la famille serait logée dans un petit appartement de 2 chambres. Leonarda ne voudrait pas aller à l'école là-bas parce qu'elle ne parle pas la langue du pays. C'est actuellement son père qui lui sert d'interprète au Kosovo. La cour d'appel de Caen a alourdi la peine de Françoise Dercle. Elle a été condamnée aujourd'hui à 5 ans de prison ferme. Cette femme de 57 ans était accusée d'avoir été le gourou d'une secte à Lisieux dans le Calvados. La cour d'appel a délivré un mandat d'arrêt contre elle. Elle comparaissait libre à son procès depuis lundi, mais aujourd'hui elle était absente à l'énoncé de l'arrêt. Hervé Morin s'est expliqué cet après-midi devant les assises de Rennes sur l'affaire du Tanit. L'ancien ministre de la Défense a reconnu que l'opération militaire avait pour but de libérer les otages du voilier. De ce point de vue-là, c'est un échec, dit Hervé Morin. Le skipper du voilier, Florent Lemasson, est mort, victime d'une balle perdue des militaires français. Hervé Morin a aussi expliqué que l'opération avait été décidée après des négociations infructueuses. Une rançon avait même été proposée, ainsi qu'un échange de la femme du skipper et de son fils contre un militaire français. français. À l'époque, Chloé Lemasson avait refusé. L'objectif deuxième des militaires était alors d'empêcher le voilier d'atteindre les côtes. La décision de l'opération a été prise par Nicolas Sarkozy, qui était alors président de la République. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les dimanches.
Mais oui, mais c'est trop facile ça.
À 20h10,
c'est trop propre.
Le masque et la plume.
Je t'ai pas donné la parole, mais tu la prends quand même.
Oui, non.
Jérôme Garcin.
Allez, avançons, on a plein de livres à évoquer ce soir.
Littérature.
C'est tous les clichés, tous les rouages habituels.
Cinéma.
Il y a une scène finale.
Théâtre.
Extraordinaire.
Ah oui, on peut pas raconter
extraordinaire.
La projection du film.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la plume.
C'est grandiose, tu respires.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, Mozart encore, après pour une très belle publication, un manuscrit avec des commentaires, un livre disque. Et Mozart, ce sera d'abord la voix de Joyce DiDonato pour commencer, ensuite Schubert, une symphonie en ut, la grande, et très longue effectivement, des moments divins. Certains ont dit qu'elle était un petit peu épuisante et Stravinsky avait répondu vraiment, si je m'endors, ça n'est pas grave, du moment que quand je me réveille, ben, je sois au paradis, en parlant de cette symphonie qui est appelé quelquefois, dénommé comme la 9e généralement, et puis là le disque nous dit que c'est la 8e, peu importe, parce que simplement la 7e n'a pas vraiment abouti, mais ça ne nous intéresse pas tellement tout ça. Le principal, c'est une symphonie en ut, la tonalité donne bien le caractère de l'œuvre et sa couleur. Et puis on va parler un petit peu à la fin de l'émission de la Vestale de Spontini, un opéra qui va être proche, qui va être très très proche de nous ces temps-ci, parce que c'est un partenariat France Inter, et c'est jusqu'au 28 octobre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Donc 6 représentations, la première est déjà passée, mais je vais faire entendre un petit peu de ce chef-d'œuvre à redécouvrir. Et bien voici tout de suite le disque de Joyce DiDonato, notre américaine tellement européenne et puis qui aime tellement son public aussi, Rejoice, donc réjouissons-nous. Et je vous propose d'entendre un air de Don Giovanni, m'y tradit, c'est-à-dire « Cette âme ingrate m'a trahi et me rend malheureuse, ô Dieu, mais trahi et abandonné, j'éprouve encore pour lui de la pitié. »
Thank you.
Thank you.